Ce sont les équipes de Kepler Unigestion qui nous accompagnent ce mardi. Joachim Herrmann, bonjour Joachim, merci de nous accompagner ce matin pour nous ouvrir un petit peu les portes de votre gestion active. Vous êtes analyste chez Kepler Unigestion. Avec vous, on va parler de valeurs liées à l'intelligence artificielle, mais pas que. Commençons peut-être par Inditex, la maison mère de Zara, qui a publié ses résultats il y a quelques jours de cela. Et visiblement, cette publication vous a rassuré.
Oui, bonjour Étienne, merci de me recevoir. Effectivement, Inditex, on va revenir sur la publication de la semaine dernière, qui est sur son premier trimestre, qui se terminait à fin avril, donc avec deux mois déjà dans la guerre en Iran, donc avec les répercussions qui sont déjà visibles. Et on peut dire que ça a été très très rassurant, avec des ventes en hausse de 8,8% en organique, une dynamique qui s'accélère encore plus d'ailleurs sur le mois de mai, avec un taux de croissance aux alentours de 11,5% dans les premières semaines du mois de mai. En parallèle, la marge brute a atteint un niveau record à 61%, quand bien même l'entreprise reconnaît avoir des problèmes de coûts, notamment sur le polyester, sur le coton, qui ont bien monté ces derniers mois, qui représentent 27% des matières premières du groupe. Donc au-delà de ces chiffres, voilà, je trouve que ça illustre vraiment le potentiel d'Inditex qui se bat sur plusieurs fronts en même temps et qui reste compétitif. On peut voir, par exemple, sur le premier terrain, c'est celui du premium ou du luxe, on va dire, mais plutôt le premium, et que ce dernier a fortement augmenté ses prix dans l'euphorie post-Covid, au point d'être aujourd'hui regardé avec méfiance, voire défiance, par ses clients. Alors qu'Inditex, lui, a également ajusté ses prix, parfois même de 50%, sur des produits basiques, en restant parfaitement positionné avec une image accessible, mais néanmoins de qualité. On peut penser à la composition des tissus. Il y a quand même du coton dans les produits Zara. Donc, il ne se moque pas du client. Le deuxième terrain où Inditex performe bien, c'est le milieu de gamme, là où il y a des concurrents comme H&M. C'est le concurrent type. Ici, l'écart se joue vraiment sur l'exécution. Inditex, ils ont une supply chain qui est intégrée. Ils arrivent à mettre rapidement les produits en vente sur le marché. Ils ont une gestion très fine des stocks. Les magasins sont de grande taille et surtout bien placés pour le consommateur, mais aussi pour leur propre chaîne logistique. Tout est optimisé pour transformer rapidement la demande en vente et les ventes en profit. Donc c'est ce qui se reflète dans les niveaux de marge qui sont structurellement supérieurs pour un acteur comme Zara et donc Inditex. Et troisième terrain, si je peux finir sur Zara et Inditex, c'est l'ultra fast fashion, c'est l'émergence de ces acteurs chinois, on pense à Shein par exemple, qui imposent vraiment une logique différente. Ils ont une puissance digitale qui est très forte, une capacité à tester de très nombreux modèles en un temps très court. Et en face, Inditex peut jouer à armes égales. Ils répliquent par une puissance industrielle, opérationnelle. Ils arrivent à mettre sur le marché de manière très rapide également beaucoup, beaucoup de produits et en faisant des marges bien plus élevées que Shein.
Un titre qui est stable depuis le début de l'année, 54,56 € pour Inditex, qui est l'une des plus grandes capitalisations de la Bourse de Madrid. Ça pèse quasiment 170 milliards d'euros en termes de capitalisation boursière. Autre titre ce matin qui vous intéresse, c'est Amphenol. Alors là, on quitte l'Europe pour aller du côté de Wall Street. Un titre qui est coté au NYSE, qui fabrique notamment des connecteurs. Alors on pourrait se dire, tiens, il profite de l'intelligence artificielle en bourse. Alors quand on regarde depuis le début de l'année, c'est pas vraiment le cas. Comme Inditex, là, on a un titre qui est stable.
Oui, alors c'est un acteur qui a bien profité, on va dire, en 2025. Si on regarde un peu plus loin dans le temps, le cours de bourse est beaucoup monté l'an dernier. Cette année, ça s'est stabilisé, ce qui offre d'ailleurs, on va dire, en termes de relative value, donc une valorisation attractive par rapport à ses concurrents américains. On a vu ces dernières semaines tout ce qui est équipementier américain, NetApp, même Cisco, l'entreprise quand même assez ancienne Cisco, qui sont beaucoup montées en bourse. C'est un peu moins le cas pour Amphenol, qui se trade aujourd'hui à des niveaux plutôt intéressants, alors en termes de valeur relative par rapport à son historique. On parle quand même de 24 fois les bénéfices, donc c'est pas bon marché dans l'absolu. Mais par rapport à son historique récent, sur 3 ans, sur 10, sur 5 ans, le titre se traite à une légère décote de 5 à 10%. Ce n'est pas négligeable. Donc ça, c'est la bonne vue de la valorisation. Vous évoquiez juste avant qu'on comprenne l'antenne ensemble les publications d'Oracle et d'Adobe. Effectivement, Amphenol bénéficie de ce boom de l'IA. Il fabrique effectivement les câbles qui sont cruciaux dans les data centers. Donc ça, le groupe a beaucoup changé ces dernières années. Aujourd'hui, il affiche des taux de croissance à deux chiffres et une progression de marge. Mais j'aime bien, j'attire l'attention des auditeurs et des téléspectateurs, c'est aussi sur le deuxième axe, c'est que c'est une entreprise qui gère extrêmement bien la croissance externe. Historiquement, Amphenol est un acheteur régulier de sociétés de taille moyenne, de l'ordre de 1 à 2 milliards. On va dire pour eux, c'est des mid-cap. Mais l'été dernier, donc en 2025, ils nous ont un peu surpris. Ils ont racheté une entreprise qui pesait 10 milliards. Et là, le marché s'est un peu interrogé au début. Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant pour deux choses. Premièrement, c'est qu'ils ont racheté pour la deuxième fois une division à un groupe américain en difficulté qui s'appelle CommScope. Et donc, en fait, ce management, il a pu éprouver la solidité de la première acquisition. Ils ne se sont pas lancés à l'aveugle dans cette acquisition qui est la plus structurante de leur histoire. Et de surcroît, vu qu'ils ont acheté une division et une entreprise en difficulté, ils ont obtenu un bon prix. Ça, c'est le premier aspect qui me rassure. Et le deuxième, c'est que la croissance du groupe est très, très forte. L'endettement qui résulte de cette acquisition n'est pas si problématique que ça et devrait se résoudre à 12-18 mois. Donc dans une logique cyclique, l'industrie cyclique quand même, il faut le reconnaître, et de potentielles bulles, du moins sur certaines valorisations d'IA, c'est quand même rassurant de se dire que la dette ne sera plus un problème d'ici quelques trimestres.
143$ pour ce titre en phénol, qui est donc costé à Wall Street 176 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et puis alors un dernier mot sur une valeur qui est là aussi cotée aux États-Unis. ADP, alors on parle souvent de ADP avec les fameux chiffres ADP de l'emploi. Eh bien oui, cette société est cotée en bourse. C'est vrai qu'elle suit très bien ce qui se passe sur le marché de l'emploi aux États-Unis, dans le sens où son métier, c'est d'éditer des fiches de paie. Donc c'est vrai que c'est un bon baromètre et c'est vrai qu'on parle tous les mois ou presque des chiffres ADP sur ce plateau, dans le sens où ils publient à chaque fois leurs chiffres avant les données officielles du ministère du Travail.
Oui, effectivement, c'est le leader mondial de la paie. Alors, il s'occupe de générer les fiches de paie, de s'occuper aussi des questions réglementaires, des cotisations sociales, et également pour certains clients, il s'occupe physiquement de la paie, vraiment, et même des flux financiers. Et c'est intéressant, c'est que vous évoquiez la publication à venir d'Adobe, et là on parle d'une entreprise, je parle d'ADP, Automatic Data Processing, qui a été sanctionnée en bourse de manière très très sévère. Aujourd'hui, le titre fait moins 30% sur un an, il est tombé même jusqu'à plus de moins 40%. Pourquoi? C'est une valeur que le marché a pensé que c'était une victime potentielle de l'IA. Pourquoi? Effectivement, vous évoquiez l'affichage de fiches de paye, ça peut paraître relativement simple pour une IA, mais aujourd'hui, ce que les entreprises payent quand elles contractent avec ADP, c'est qu'elles veulent s'assurer du côté réglementaire des choses, que ça soit bien fait pour pas qu'il y ait de plaintes qui puissent venir. Et ça, on pense que c'est un processus tellement crucial que les grosses entreprises, le cœur vraiment des clients d'ADP, ils ne vont pas encore passer sur des solutions IA beaucoup plus légères. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, et ce qui est très intéressant aussi, ça date de leur dernière publication trimestrielle, c'est que le management a indiqué un chiffre qui peut paraître anodin, ils ont parlé de moins 8%. C'est le nombre d'interactions entre ADP et ses clients PME. En fait, grâce à leurs outils IA qu'ils ont déployés en interne, ils ont pu servir leurs clients en faisant en sorte que leurs interlocuteurs les interpellent à 8% de moins. Donc on voit qu'ADP partage en fait les gains de productivité entre lui et ses clients, et c'est pour cette raison aussi qu'on pense que le titre ne mérite pas d'être massacré autant en bourse.